Vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne. Vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 67. Tout ce que le ciel permet. Ah, chers amis, bonjour. Nous poursuivons aujourd'hui notre promenade dans notre mémoire. L'émission, vous l'avez bien connue, explore les pistes du temps perdu et les jeux du hasard. Une semaine sur deux, nous recevons un invité spécialiste du temps, une anthropologue, une archiviste, une exploratrice des racines de nos angoisses de vivre, un professeur d'histoire amoureux de Strasbourg, un journaliste à la recherche de notre identité alsacienne. Et pour la deuxième semaine, nous nous plongeons dans un temps qui nous paraît déjà bien lointain, le temps du Covid, le temps du confinement. Alors, je vous ai lu des épisodes du deuxième confinement qui se déroulait, est-ce que vous vous en souvenez, du 28 octobre au 24 novembre 2020. Et c'est des épisodes que j'ai rédigés dans un petit ouvrage, modeste mais génial, intitulé « Le chat du 28 ne veut pas mourir ». Nous avions tous peur de mourir dans ce reconfinement. Et donc un journal que l'on trouve avec bonheur aux éditions Bourblanc, belle maison d'édition alsacienne. Nous sommes le 1er novembre 2020. Il fait gris et l'on est prêt à prendre tout ce que le ciel permet. Si la rue Gailler était un décor et le reconfinement un genre cinématographique, serait-ce un film d'horreur? Serait-ce une tragédie musicale, une comédie ou un mélodrame? C'est l'automne. Dans le désarroi des lumières et des ombres et la vivacité des illusions et des verdures, moteur. Place Golbery. Le noir du deuil et le carmin des feuilles jonchent les pavés et s'apparient comme les moineaux tranquilles dès l'heure du couvre-feu, quand on est sereinement confiné chez soi, plus la peine d'apparier ses chaussettes. Un clair-obscur qui sied à la profondeur des contrastes de l'actualité du virus. Aujourd'hui, elle envahit les librairies indépendantes qui rappellent, en pétitionnant, qu'un livre est un produit de première nécessité. Tout drogué de littérature en crise de manque n'a-t-il pas chez lui 5, 20, 100 bouquins pas encore lus et quelques œuvres complètes jamais ouvertes? Et pourtant, on hurle pour aller dans des librairies où l'on n'a jamais mis les pieds. Mais il s'agit d'un noble et légitime combat contre la concurrence commerciale amazonienne et supermarchéenne. C'est chaud. 232,8 degrés Celsius. Alors, 238,2 degrés Celsius et Fahrenheit 451. Cette affiche « Livre interdit » entre les conserves et le PQ. Le PM, c'est le Premier ministre, squatte le 20h d'une chaîne commerciale pour faire un solo théâtral à la gravité emphatique, on croirait un acteur à Avignon, tentant de couvrir l'éclat du vent dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Ça crie, mais on n'entend rien. Les livres interdits. Vraiment, quel souvenir. L'isolement et la solitude ont un remède. La télévision? Tout ce que vous avez à faire, c'est de tourner le bouton et vous aurez la compagnie que vous pouvez désirer. Là, sur l'écran, le drame, la comédie, la parade de la vie sont à la pointe de vos doigts. Les héros du film de la rue Gailler sont des citoyens fougueux qui se soumettent par leur volonté même d'être de bons citoyens. On peut s'évader du présent en nourrissant un imaginaire qui refoule toute contestation. À Hollywood, des réalisateurs pensaient que ce monde de la demi-conscience était d'essence féminine. Covid, La star de notre film est un mot féminin, mais que beaucoup utilisent au masculin. À Paris, nouvelle vague, des réalisateurs pensaient que l'idée d'un film devait être cachée. Dans les solitudes du confinement, l'idée du vivre ensemble structure le scénario du film de notre rue. Nous nous camouflons, mais cela ne se voit pas. C'est hors cadre. Aimons l'amour éternel des mélodrames qui se termine en disant « Vous n'êtes pas seul. La perversité des rituels engendre une société tyrannique, hégémonique, impérieuse, qui ne fonctionne que par injonction ou prescription. La douleur de l'artifice est une appréhension dangereuse et l'arrogance versatile d'ordre si désordonné nous ramène à cet effarant saisissement, Le nouveau confinement enferme moins nos peurs que celui d'avant. On verra si c'est tout ce que le ciel permet. Lundi 2 novembre 2020, je crois en toi, promesse toute puissante. C'est un grand magasin d'une chaîne très active qui vend de tout, du bricolage, des cosmétiques, des fleurs en plastique, des cadres avec Marilyn et des soupes chinoises en sachet. On y va pour acheter un pot de colle et on ressort un panier plein. Aujourd'hui, les trois quarts des rayons sont couverts d'un grand film transparent qui masque les produits interdits à la vente. La peinture blanche pour plafond est autorisée. Ah ben c'est incompréhensible, me dit une vendeuse. Je suis seule dans les rayons. Pour ne pas rester désœuvrée, quatre de ces dames font du réassort. Elles portent des gilets orange à bandes fluorescentes avec dans leur dos imprimé et souligné « Distance de 1,5 mètre » et plus bas « Merci ». On ne comprend rien, ça change tout le temps, on ne sait pas quoi faire, ce n'est pas impossible qu'on ferme demain. Les patrons ne peuvent rien nous promettre. Machiavel disait au prince qu'il n'y avait pas d'obligation à tenir ses promesses. Il suffisait, les hommes étant ce qu'ils sont, de simuler et de dissimuler. Montaigne, lui, respectait sans condition une promesse haute valeur éthique pour ne pas manquer à l'humanité. Les philosophes distinguent deux promesses, celle du contrat et celle de l'alliance. Le contrat relève de l'institution sociale. L'alliance est un schéma biblique, l'alliance entre Dieu et un peuple, à travers lui, l'humanité. Voilà, les philosophes distinguent deux promesses, celle du contrat et celle de l'alliance. Le contrat relève de l'institution sociale et l'alliance est un schéma biblique, l'alliance entre Dieu et un peuple et à travers lui, l'humanité. Quand les gouvernants nous promettent la survie à la pandémie, ils établissent une structure théologique du politique. Le confinement ressemble à un pari de publiciste, mêlant des démagogues, des technocrates, des savants et parfois des prophètes. La mort, si présente dans les déclarations du président et du premier ministre, confronte la toute-puissance de l'homme à celle mystérieuse d'une fatalité qui se nommerait Dieu. Promettre, analyse Vincent Peillon, philosophe, ancien député européen et ministre de l'Éducation, promettre est une action de réparation et de promotion de la justice sociale. Pourquoi ce confinement, ce deuxième confinement, semble-t-il déjà montrer ses limites? Parce que la dimension éthique qui nous faisait applaudir chaque soir à 20h, elle est perdue. L'individu se désengage et se déresponsabilise. La promesse que l'on accepte en signant une attestation de déplacement dérogatoire n'est pas un contrat commercial ou juridique. C'est la reconnaissance d'une alliance avec la politique réparatrice des souffrances et des injustices. je crois en toi, promesse toute-puissante. La résignation, forme de l'art, le mardi 3 novembre 2020. Le confinement exclut les dilettantes. À la rigueur, pouvons-nous être dandies en choisissant la couleur de nos masques ? Mais être dilettante, c'est difficile, puisqu'il s'agit de ne se fier qu'aux impulsions de ses goûts. La pandémie élève la résignation en une forme de l'art. Alors que le dandy ne souhaite que vivre et mourir devant un miroir, le dilettante s'entiche de sarcasme et de désinvolture. Oui, c'est une forme de l'art et ce n'est pas Sivelenonspeck de la tarte flambée. Hein. Non, c'est une forme de l'art que de se résigner. Et comme nous sommes toujours en guerre, il doit se résigner à la lâcheté la plus sommaire qui se nomme obéir. Cette culpabilité que nous pourrions ressentir face à notre veulerie trouve refuge dans l'actualité du jour, les merveilleux cafouillages dans les consignes données officiellement pour obéir et nous confiner. Comme nous avions peur de mourir lors du premier confinement, nous vous avons étiré jusqu'à des proportions démesurées notre sens de l'abdication. Se remplir soi-même une autorisation et craindre d'en dépasser l'heure, c'est établir une figure systématique d'allégeance, de docilité, de résignation. Nous avions peur et donc nous jubilions de nous complaire sans avoir honte dans l'univers de notre chambre. Elle était devenue notre prison. Au deuxième confinement, si nous le respections aussi strictement, ça puerait le bagne, la déchéance acceptée étalée dans notre famille, dans un laisser-aller définitif et un débraillé éternel. Et au retour d'une petite heure dérogatoire, nous ressentirions un plaisir honteux. Mais, le chat du 28 avait peur de mourir. Nous acceptions cette condition. Nous jouons une tragédie de l'enlisement sans avoir vraiment envie de poursuivre la petite étincelle de pureté qui nous reste dans l'abjection. Si écrire est la recherche de l'exacte pesanteur de la vie, il faudrait pouvoir toucher des doigts cette lourdeur et donc n'écrire que pour les mains. Heureusement, tout nous distrait, et même si l'air que nous respirons contient des aphorismes de malheur et de bassesse, nous nous adaptons à ce consensus qui consiste à attendre la fin sans savoir si et quand nous y serons. Sur Internet, un humoriste fait tourner un sketch relatant son 27e confinement, et son rire est motivé par la perte du goût de la controverse. Notre lâcheté. Dans ce petit roman paru en 1930, Alain Berthier pose cette question vertigineuse. Que peut être la pitié d'un homme qui couche avec l'objet de sa pitié ? Que peut être la pitié d'un homme qui couche avec l'objet de sa pitié. L'insipide servira de conclusion à cette nuit qui tombe si tôt sur la rue Gaillère, où heureusement nous avons toujours l'affichage lumineux du pressing en lettres de néon vert donnant la date, l'heure et la température ambiante. Je voudrais oublier mon passé. Mercredi 4 novembre 2020. Tissu aidant iode. Alors, pour résister au virus, tous, médecins et malades, tous, citoyens, propagateurs potentiels de l'horreur, tous pourraient faire le serment de ne déposer les armes que lorsque, à nouveau, l'on pourra se promener partout sans risque, s'embrasser sur la bouche et manger avec les doigts et sans masque. Tissu aidant iode, c'est la céleste phrase codée de la division blindée du lieutenant-colonel Rouvillon, pour annoncer la liberté et la libération de Strasbourg le 23 novembre 1944. Quand allons-nous être libérés de la Covid-19 et aussi, autre association d'idées pas trop incongrue, être libérés du bouffon Donald Trump, puisqu'à cette heure, le suspense se poursuit aux États-Unis. Une phrase au destin devenu légendaire a marqué notre entrée dans la crainte du coronavirus. Nous sommes en guerre. Quelle phrase accompagnera notre sortie? Nous sommes en guerre. Emmanuel Macron. Tant de phrases sont à l'image des éphéméroptères, ces insectes qui ne vivent que quelques heures. Après avoir déposé leurs œufs sur des eaux marécageuses, au flux aussi imprévisible que les canaux des réseaux sociaux, allaient suivre de près les journaux papier et les bulletins radio. La dantesque question du confinement ne mobilise qu'un pauvre vocabulaire, de tristes clichés qu'un ton martial ne rend guère poétique. Le serment de Koufra était lyrique. La tragédie, le cauchemar que nous vivons en cette fin 2020, peut se nourrir sans indécence de la prosodie. Les ailes des éphéméroptères sont transparentes, finement nervurées et rigides, et les imaginés peuplant les deux rives du Rhin provoquent l'exaltation de l'explorateur qui sommeille en nous et qui apprend que leurs larves ont une longévité de parfois 10 ans et que leur vie a la brièveté de quelques instants nécessaires pour se reproduire. Les sentences qui se répètent et qui règlent désormais nos vies de confinés à déplacement dérogatoire ne cherchent pas à enjoliver la formule technocratique. Oui, ce sont des insectes qui vivent 1 ou 2 heures, mais leurs larves peuvent attendre 10 ans avant de naître. Quelle belle réflexion dans notre émission qui cherche le temps perdu. À l'Assemblée nationale, hier soir, un texte, certes dénué d'aimables phrases sur l'état d'urgence sanitaire, devait être voté. Les députés de la majorité ont séché, peut-être pour prendre le temps de lire chez eux de la poésie, tissu aidant, iode. Jeudi 5 novembre 2020. Virus et orage d'acier. La deuxième vague est plus forte et ce sera plus cruel qu'au printemps. Les ministres se succèdent pour mettre le feu au rouge écarlate. Mais le respect des consignes de confinement semble bien pris à la vent-vole. Les rues sont pleines, même la fleuriste a du monde. Les clients patientant gentiment, juste là, au croisement. Croisement de la rue Gaillère et de la rue Wimpfeling. Au-dessus des masques, les yeux graves racontent la résistance au virus, comme si la lutte contre la pandémie devenait un exil intérieur. Les chauves-souris, sous la voussure crevée des cathédrales, voletaient à la clarté de la lune. Les malades, au bord des falaises de marbre, vivent dans la terreur de l'invisible et la dictature des interdictions. On attend le barbare, le poison mortel, comme le désert des Tartares ou le rivage des Sirtes. Voilà des petites citations pour se faire plaisir. Si l'on a le symptôme et on fait le test, et si le test est positif, d'abord on s'isole, puis on attend que cela passe ou que cela empire jusqu'à l'hôpital. L'hôpital, certes, mais pas en réanimation. On dira de vous que vous êtes quand même entré en réanimation aux soins critiques, mais il s'en sortira. Pendant tout ce temps, avec une prudence stylistique flaubertienne, on cherche à savoir qui et comment on a attrapé cette saloperie. On multiplie les versions possibles de la rencontre fatale. qui est-ce qu'on a vu qui m'a filé le virus ? Souvenez-vous-en, c'était il y a presque 4 ans. Qui m'a fichu ce virus ? À qui ai-je dit bonjour dans la rue ? Le scénario probable est celui de l'agonie. On devient un soldat pris dans des orages d'acier, les orages d'acier de l'écrivain allemand Ernst Jünger, qui recommande d'être un rebelle, celui qui doit se confronter à la liberté, se révolter contre ceux qui semblent être des automates, les techniciens de l'avant-trépas. Il dit qu'il faut refuser d'en admettre la conséquence éthique, le fatalisme. Ernst Jünger, Orage d'acier, une lecture formidable. Vendredi 6 novembre 2020, les mots de la mort. Après 5 jours sous oxygène, à l'hôpital, son ami est rentré à la maison. Très affaibli, il dort, ça va. Et vivant, fait-elle mine de s'étonner, cynique comme une ex-future veuve. C'était du lourd, il s'en est sorti. Elle aussi a le Covid-19, mais en léger. Elle avait interdiction de venir, puis une visite fut autorisée après des heures à attendre dans un couloir isolé. « Écoutez, madame, écoutez, si vous voulez qu'on sauve votre mari, arrêtez de pleurer !» Alors c'est une histoire qu'il faudrait raconter, et au détour d'une chronique du Monde, on lit que « la mort n'est qu'un mot » et que suivant l'azur, Nathalie Léger dit que finalement, l'écriture, c'est le seul truc réel et qu'elle aimerait inventer un temps grammatical pour parler des morts au présent sans avoir l'air fou. À la une du quotidien, une publicité pour le prix Femina, avec un bandeau rouge un petit peu roué, le livre, un bien de première nécessité. Qu'est-ce qu'un besoin essentiel pour ne pas mourir, questionne Libé, Libération, avec en illustration un livre bien relié en forme de tarte au fromage. Alors, vous savez que la meilleure tarte au fromage à Strasbourg, on la trouve à la boulangerie de la rue Gaillier. Et cette tarte au fromage est sur une assiette blanche. La liste des courses est un très bon exemple de cet essentiel à géométrie variable. Parce que là, vraiment, on était en train de ne plus respecter les consignes. On était en train de mentir ou en tout cas de désobéir. Le livre « Un bien de première nécessité », eh bien, cette liste des courses, on avait dessus l'eau, le savon, les cornflakes, et puis on peut aussi mettre un abonnement à Téléfoot ou le dernier concours. Mort de faim, mort d'ennui ou mort de mots. Parenthèse, en dernière page, hommage à Jean-Pierre Vincent, mort hier à Malemort, qui au TNS... disait que s'il est si regretté, année 1970, aux jeunes spectateurs, que pour aimer le théâtre, il fallait lire l'éducation sentimentale et voir des films, la règle du jeu. Voilà, Jean-Pierre Vincent qui racontait cela à ses étudiants à l'école du TNS. Il faut lire Flaubert, l'éducation sentimentale, et voir Jean Renoir, la règle du jeu. Est-ce qu'un mot peut défier la mort ? Bon, alors, petite anecdote, j'ai raté le concours d'entrée au TNS en 1979. Fin de la parenthèse. Est-ce qu'un mot peut défier la mort ? Il y a des ambulances qui foncent à l'hôpital. D'autres devraient s'arrêter devant la BNU pour sauver des vies. J'ai en main les volumes de la correspondance de Flaubert où tout est à lire pour survivre, car écrire... c'est vivre. Je me promène une heure durant entre Ernest Chevalier, Alfred le Poitevin et bien sûr les conseils à Louise Collet. La bêtise consiste à conclure. Ça, c'est Flaubert qui disait cela. La bêtise consiste à vouloir conclure et conclure, ce n'est pas mourir un petit peu. Samedi 7 novembre 2020. passation. Un virus, soit il disparaît, soit à un moment ou un autre, on le bat. Aux États-Unis, de valeureuses élections ont permis de battre le bouffon. Le pays aurait été, sinon confiné, 4 autres années. Pour la Covid-19, qui ne disparaîtra peut-être pas aussi soudainement qu'elle est apparue, tous espèrent qu'elle sera battue par un vaccin. Le vaccin du pouvoir, c'est la justice, la démocratie, Dieu en qui l'on croit si on a des dollars en poche. In God we trust. En France, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité. Oui, c'est ça le vaccin. La liberté, l'égalité et la fraternité. Aller jouer au golf au moment où le destin du pays bascule n'est pas vraiment une fraternité attitude. Se faire couper la parole par les plus grandes chaînes de télévision décidant de refuser de diffuser des mensonges, c'est là une preuve de liberté, celle de journalistes répondant plus à une éthique qu'aux ordres présidentiels. Pour trouver le vaccin qui nous sortira du spectre des confinements, les chercheurs doivent reconnaître l'importance majeure de la confrontation des convictions et des découvertes. Les rapports de force peuvent être emportés et combatifs. Si l'organisation, le laboratoire ou la République fonctionnent de façon apaisée, le meilleur en sortira. Grâce à quoi ? À la prise en compte de la pluralité et de la conflictualité. Une surface de 9,8 millions de kilomètres carrés, avec 330 millions d'habitants, un diamètre entre 60 et 140 nanomètres. Alors, un nanomètre, c'est un milliardième de mètre. Pour se protéger des Mexicains, il construit un mur. Pour se protéger du virus, on porte un masque. Pour que cela ne passe pas. C'était l'épisode numéro 67, « Tout ce que le ciel permet », avec le noir du deuil du 1er novembre 2020, le reconfinement et le carmin des feuilles qui jonchent les pavés de la place Golbery à Strasbourg. La semaine prochaine, avec notre invité, nous verrons pourquoi les ruines et les monuments historiques, dont il ne reste que quelques pierres, nous fascine tellement. Voilà. Et vous l'avez bien connu, tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi, nous recevrons donc un professeur d'histoire, aujourd'hui à la technique Thomas Marinelli, et mon nom est Ambroise Perrin. Two fellows meet, like you and I. No connection between them.